Chapitre 19. Journal de Jonathan Harker. 1er octobre, 5 heures.
Je partis avec les autres pour notre expédition, le cœur léger, car je crois que je n'avais jamais vu Mina si forte et si sereine. Je suis si heureux qu'elle ait consenti à rester en retrait et à nous laisser, nous les hommes, faire le travail. D'une certaine façon, c'était terrible pour moi qu'elle ait participé le moins du monde à cette horrible affaire. Mais maintenant que sa tâche est accomplie et que, grâce à son énergie, à son intelligence et à ses capacités d'anticipation, tous les événements ont été rassemblés de manière à être pleinement intelligibles, elle peut considérer qu'elle a fait ce qu'elle avait à faire et qu'elle peut donc maintenant nous laisser agir. Nous étions tous, je crois, un peu perturbés par la scène avec Mr. Renfield. Quand nous sortîmes de sa chambre, nous restâmes silencieux. Une fois dans le bureau, Mr. Morris dit au docteur Seward : « Dites donc, Jack, si cet homme n'essayait pas de nous faire un coup de bluff, alors c'est l'aliéné le plus sain d'esprit que j'ai jamais vu. Je n'en suis pas certain, mais je crois bien qu'il a en tête quelque chose de sérieux. » Et si c'est le cas, c'était un coup dur pour lui de ne pas avoir sa chance. Lord Godalming et moi gardâmes le silence, mais le docteur Van Helsing ajouta : « Ami John, vous connaissez mieux que moi les aliénés, et j'en suis heureux, car je crains bien que si ça avait été à moi de décider, je l'aurais relâché, du moins avant qu'il ne fasse sa dernière crise d'hystérie. Mais nous en apprenons tous les jours. » Et dans notre tâche présente, nous ne devons rien laisser au hasard, comme dirait mon ami Quincey. Tout est donc pour le mieux. » Le docteur Seward sembla leur répondre à tous deux d'un ton rêveur. « Je ne sais pas, mais je suis d'accord avec vous. Si cet homme avait été un aliéné ordinaire, j'aurais pris le risque de lui faire confiance. Mais il semble si inextricablement lié au comte que je crains de mal faire en lui répondant favorablement. » Je n'ai pas oublié qu'il m'avait supplié avec la même ferveur pour avoir un chat, et que peu après, il essayait de m'ouvrir la gorge avec ses dents. De plus, il appelle le comte son seigneur et maître, et peut-être veut-il sortir pour pouvoir l'aider de quelque façon diabolique. Ce monstre a déjà les loups et les rats, ainsi que ses semblables à ses côtés. Alors, je pense qu'il ne reculerait pas devant le fait d'utiliser un respectable aliéné. Sans doute, Renfield parlait sérieusement. J'espère simplement que nous avons fait au mieux. Ce genre de choses qui vient s'ajouter à la besogne que nous avons commencée aurait de quoi vous briser les nerfs. » Le professeur s'avança et, posant la main sur son épaule, lui dit de sa voix grave et amicale : « Ami John, n'ayez aucune crainte. Nous essayons de faire notre devoir dans cette terrible et triste affaire. Nous ne pouvons que faire ce qui nous paraît le mieux. Que pouvons-nous espérer de plus, si ce n'est la miséricorde du Seigneur ?» Lord Godalming avait disparu pendant quelques minutes, mais il était maintenant de retour. Il portait un sifflet d'argent et nous dit : « Cet endroit est peut-être plein de rats, et dans ce cas, voici qui nous protégera. » Après avoir franchi le mur, nous nous dirigeâmes vers la maison, prenant soin de rester dans l'ombre des arbres lorsque le clair de lune éclairait la pelouse. Quand nous atteignîmes le porche, le professeur ouvrit sa sacoche et en sortit de nombreux objets qu'il déposa sur le seuil en quatre petits tas, à l'évidence un pour chacun d'entre nous. Puis il dit : « Mes amis, nous allons affronter un terrible danger, et nous allons avoir besoin d'armes de toutes sortes. Notre ennemi n'est pas seulement un esprit. Souvenez-vous qu'il a la force de 20 hommes, et que si nos propres nuques et nos propres gorges sont ordinaires, et peuvent donc être brisées ou écrasées, les siennes ne sont pas sensibles à la force brute. Un homme fort ou un groupe d'hommes dont la force réunie surpasserait la sienne peuvent, dans certaines conditions, le contenir, mais ne sauraient le blesser comme lui pourrait les blesser. Nous devons en conséquence nous protéger contre tout contact avec lui. Gardez ceci près de votre cœur. » Et tandis qu'il parlait, il montra un petit crucifix d'argent et me le tendit, car j'étais juste à côté de lui. « Passez ces fleurs autour de votre cou, et il me tendit un collier de fleurs d'ail séchées. Pour nos autres adversaires, plus terrestres, utilisez ce revolver et ce couteau, et dans tous les cas, ces petites lampes électriques que vous pouvez attacher à votre veste. Et par-dessus tout, ceci, que nous ne devrons pas désacraliser en vain. C'était un morceau d'hostie qu'il mit dans une enveloppe qu'il me donna. Tous les autres avaient reçu le même équipement. « Maintenant, dit-il, ami John, où est le passe-partout ? Si nous pouvons ouvrir ainsi cette porte, nous n'aurons pas besoin de briser une fenêtre, comme ce fut le cas chez Miss Lucy. » Le docteur Seward essaya un ou deux passe-partout, et sa dextérité de chirurgien lui fut très utile pour cette opération. Il en trouva un qui convenait, et après quelques manipulations, il put faire jouer le verrou qui tourna dans un craquement rouillé. Nous poussâmes sur la porte, faisant craquer les gonds usés, et elle s'ouvrit lentement. Cela me rappela immédiatement le récit fait par le docteur Seward de l'ouverture de la tombe de Miss Westenra, et j'imagine que la même idée frappa mes compagnons, car tous se reculèrent. Le professeur fut le premier à avancer, franchissant la porte.
« In manuas tuas domine, » dit-il,
se signant tandis qu'il franchissait le seuil. Nous refermâmes la porte derrière nous, de peur qu'après avoir allumé nos lampes, nous pûmes attirer l'attention depuis la route. Le professeur vérifia la serrure avec attention, afin de s'assurer que nous pourrions l'ouvrir de l'intérieur si jamais nous devions sortir en urgence. Puis nous allumâmes tous nos lampes et commençâmes nos recherches. La lumière de nos petites lampes nous révélait toutes sortes de formes curieuses, quand elles projetaient au mur les grandes ombres de nos corps, ou quand les faisceaux se croisaient. Je ne pouvais ôter de mon esprit l'impression qu'il y avait une présence parmi nous. Je suppose que c'était une réminiscence de ma terrible expérience en Transylvanie que ces lieux sinistres réveillaient en moi. Sans doute ce sentiment était-il partagé par mes compagnons. En effet, je remarquai qu'ils se retournaient au moindre bruit et à chaque nouvelle ombre qu'ils apercevaient, comme je le faisais moi-même. Tout l'endroit était recouvert d'une couche de poussière qui semblait atteindre sur le sol plusieurs pouces d'épaisseur, sauf là où nous pouvions voir de récentes traces de pas laissées par des souliers cloutés. Les murs étaient couverts d'un duvet de poussière. Et dans les coins s'étiraient de grosses toiles d'araignées sur lesquelles la saleté s'était accumulée et qui, déchirées sous leur propre poids, ressemblaient à des tentures en lambeaux. Sur une table dans le hall se trouvait un gros trousseau de clés, portant chacune une étiquette jaunie par le temps. Elles avaient été utilisées plusieurs fois, car on voyait sur la table des traces dans la couche de poussière, similaires à celles que laissa le professeur en s'emparant du trousseau. Il se tourna vers moi et dit « Vous connaissez cet endroit, Jonathan. Vous en avez copié les plans et vous le connaissez en tout cas mieux que nous. Comment pouvons-nous nous rendre à la chapelle ?» J'avais une idée de la direction, même si, lors de ma précédente visite, je n'avais pas pu y accéder. Alors je les conduisis et, après quelques errements, je me retrouvai face à une porte de chêne, basse et voûtée, renforcée de fer. « C'est ici. » dit le professeur, dirigeant sa lampe vers un petit plan du bâtiment qu'il avait copié sur l'original qui se trouvait dans le dossier relatif à l'achat de la propriété. Nous eûmes quelques difficultés à trouver la bonne clé sur le trousseau, mais nous parvînmes à ouvrir la porte. Nous nous attendions à quelque chose de très déplaisant, car en ouvrant la porte, un air malodorant avait commencé à s'exhaler par l'entrebâillement. Mais personne n'était préparé à une odeur aussi nauséabonde. Aucun de mes compagnons n'avait jamais approché le comte d'aussi près que moi, et lorsque je l'avais vu, soit il était en période de jeûne dans ses appartements, soit il était gorgé de sang frais dans un bâtiment en ruine où pouvait pénétrer l'air frais du dehors. Mais cet endroit-ci était exigu, il était fermé depuis longtemps, et l'air y était immobile et vicié. À une odeur de terre se mêlait celle des miasmes qui emplissaient l'air infect. Mais l'odeur elle-même, comment pourrais-je la décrire ? Ce n'était pas seulement qu'elle mêlait aux senteurs de la mort, sel âcre et acide, du sang, mais c'était comme si la putréfaction elle-même s'était corrompue. Malheur ! Cela me rend malade rien que d'y penser. Chaque souffle exhalé par ce monstre semblait s'être accumulé en ce lieu pour le rendre encore plus abominable. Dans des circonstances ordinaires, une telle puanteur aurait dû mettre fin à notre entreprise. Mais les circonstances n'étaient pas ordinaires, et la tâche noble et terrible que nous devions accomplir nous donnait la force de nous élever au-dessus des considérations purement physiques. Après un mouvement de recul bien naturel devant cette pestilence, nous nous mîmes au travail, comme si cet endroit répugnant était un jardin de roses. Lorsque nous commençâmes à examiner attentivement l'endroit, le professeur nous dit « La première chose à faire, c'est de voir combien de caisses il reste. Nous devons donc fouiller chaque recoin, chaque ouverture et chaque anfractuosité pour y chercher des indices de ce qu'ont pu devenir celles qui manquent. » Un seul regard nous suffit pour en déterminer le nombre, car les caisses de terre étaient très encombrantes et on ne pouvait s'y tromper. Sur les 50, il n'en restait que 29. Soudain, je frissonnai. Je vis Lord Godalming se retourner d'un seul coup et observer le passage qui se trouvait au-delà de la porte voûtée. Et mon cœur s'arrêta. Là-bas, il me semblait voir, nous observant depuis les ténèbres, les traits du visage maléfique du comte, l'arête de son nez, ses yeux rouges, ses lèvres rouges et sa terrifiante pâleur. Un instant après, toutefois, Lord Godalming dit « J'avais cru voir un visage, mais ce n'était que des ombres. » Et il reprit ses recherches. Je dirigeai ma lampe vers le passage et y pénétrer. Il n'y avait absolument personne, et comme l'endroit ne comportait aucun recoin, aucune porte et aucune ouverture, quelle qu'elle soit, mais seulement de solides murs de pierre, il n'y avait aucun endroit où se dissimuler, même pour lui. Je pensai que ma peur avait joué un tour à mon imagination, et je ne dis rien. Quelques minutes plus tard, je vis Morris reculer subitement de quelques pas de l'endroit qu'il était occupé à examiner. Nous le suivîmes tous du regard, car sans nul doute nous étions gagnés par une certaine nervosité, et nous vîmes alors une masse phosphorescente qui brillait comme un ciel étoilé. Instinctivement, nous battîmes en retraite. La pièce entière devint littéralement grouillante de rats. Pendant quelques instants, nous restâmes interdits, tous sauf Lord Godalming, qui s'était visiblement préparé à une telle éventualité. Il se jeta sur une autre grande porte de chêne bardée de fer, dont le docteur Seward nous avait déjà fait une description, d'après sa première visite à l'extérieur du bâtiment, et que j'avais également vue moi-même. Il tourna la clé, tira les lourds verrous, et ouvrit la porte toute grande. Puis, tirant de sa poche son petit sifflet d'argent, il fit entendre un sifflement strident. Des chiens, derrière l'établissement du docteur Seward, se mirent à hurler, et après une minute, trois terriers surgirent au coin du bâtiment. Inconsciemment, nous nous étions tous rapprochés de la porte, et dans ce mouvement, je remarquai que la couche de poussière avait été foulée. Les caisses qui avaient disparu étaient donc sorties par cette porte. Mais même si à peine une minute s'était écoulée, le nombre de rats avait augmenté de façon alarmante. Ils semblaient déferler en masse dans la chapelle, à tel point que la lumière des lampes, se reflétant sur leurs corps noirs grouillants et leurs yeux brillants et maléfiques, donnait l'impression d'un essaim de lucioles. Les chiens se précipitèrent, mais ils s'arrêtèrent soudain sur le seuil et se mirent à grogner, puis, levant le museau tous les trois en même temps, commencèrent à hurler de la façon la plus lugubre. Les rats étaient maintenant des milliers et nous sortîmes. Lord Godalming prit un chien dans ses bras et alla le déposer sur le sol. Et à ce moment, la bête sembla retrouver son courage et se rua sur ses ennemis naturels. Ceux-ci s'enfuirent si vite qu'avant qu'il ait pu en tuer une vingtaine, les autres chiens, qui l'avaient rejoint de la même manière, n'avaient plus beaucoup de proie à se mettre sous la dent. La plus grande partie des rats avait déjà disparu. Et avec eux, c'était comme si une présence maléfique s'était évanouie, car les chiens gambadèrent alors dans la pièce en aboyant joyeusement, jouant avec les cadavres de leurs ennemis, les retournant et les jetant en l'air en les secouant avec rage. Nous sentîmes tous le courage revenir. Était-ce le fait d'avoir purifié l'air en ouvrant la porte, ou le soulagement de ne plus être enfermé après cette terrible expérience? En tout cas, la terreur nous quitta comme on ôte un manteau, et notre présence en ce lieu perdit un peu de son caractère sinistre, même si notre résolution demeurait toujours aussi ferme. Nous refermâmes la porte extérieure et la verrouillâmes, puis, emmenant les chiens, nous entreprîmes d'explorer la maison elle-même. Nous ne trouvâmes rien de particulier, si ce n'est de la poussière dans des quantités inimaginables, et complètement vierge, à part les traces de pas que j'avais moi-même laissées lors de ma première visite. À aucun moment les chiens ne montrèrent le moindre signe de nervosité, et même lorsque nous retournâmes à la chapelle, ils frétillaient d'excitation comme s'ils sortaient chasser le lapin dans la forêt en plein été. Le ciel s'éclaircissait déjà à l'est quand nous sortîmes par la porte principale. Le docteur Van Helsing avait ôté du trousseau la clé de cette porte, qu'il avait convenablement verrouillée, et avait ensuite mis la clé dans sa poche. « Jusqu'ici, dit-il, cette nuit nous a été profitable. Rien de grave ne nous est arrivé comme j'aurais pu le craindre, et nous savons maintenant combien il manque de caisses. Mais surtout, je me réjouis que cette première étape, peut-être la plus difficile et la plus dangereuse, ait pu être accomplie sans qu'il eût été nécessaire de faire entrer dans cette chapelle notre douce Madame Mina, ou de troubler son sommeil ou ses journées avec des visions, des sons ou des odeurs monstrueuses qu'elle n'aurait jamais pu oublier. Nous avons appris quelque chose aussi, si du moins on peut raisonner à partir de ce cas particulier. C'est que les bêtes sauvages, aux ordres du comte, ne sont pas sensibles à ces pouvoirs mentaux. En effet, voyez, ces rats qui ont répondu à son appel, tout comme les loups avaient répondu à son appel lancé depuis le haut du château pour dévorer cette pauvre mère, ou au moment de votre départ, Jonathan. Eh bien, bien qu'ils soient venus quand il les a appelés, ils se sont enfuis en désordre devant les petits chiens de notre ami Arthur. Nous avons encore d'autres épreuves devant nous, d'autres dangers, d'autres terreurs, et ce monstre lui-même, il n'a pas utilisé son pouvoir sur le monde animal cette nuit pour la dernière fois, soyez-en sûrs. Ainsi donc, il est parti autre part. Bien, voilà qui nous donne l'opportunité d'annoncer échec dans cette partie que nous jouons pour la survie des âmes humaines. Et maintenant, rentrons. L'aube est proche. Et nous avons de quoi nous réjouir de notre première nuit de travail. Il se pourrait que de nombreuses nuits et de nombreux jours pleins de périls nous attendent. Mais nous devons aller de l'avant et nul danger ne doit nous faire reculer. L'établissement était silencieux quand nous rentrâmes, à part une pauvre créature qui hurlait à l'autre bout du bâtiment et un sourd gémissement qui venait de la chambre de Renfield. Le pauvre homme se torturait sans doute l'esprit en vain, comme tous les aliénés. Je rentrai sur la pointe des pieds dans notre chambre, et je trouvai Mina endormie, respirant si doucement que je dus m'approcher d'elle pour entendre son souffle. Elle semblait plus pâle que de coutume. J'espère que la conférence de ce soir ne l'a pas trop perturbée. Je suis vraiment heureux que les tâches qu'il nous reste à accomplir, et même nos délibérations, lui soit épargné. C'est une pression trop forte pour une femme. Ce n'était pas mon opinion au début, mais j'en sais maintenant davantage. Je suis donc heureux qu'il en soit ainsi. Elle pourrait être effrayée, ne serait-ce que d'entendre certaines choses. Mais elle ne doit pas se rendre compte qu'il y a dissimulation, ou ce serait encore pire. En conséquence, notre travail doit être pour elle comme un livre scellé, du moins tant que nous ne sommes pas en mesure de lui dire que tout est fini et que la terre a été délivrée d'un monstre des enfers. Je sais bien qu'il sera difficile de garder le silence, tant elle et moi nous nous faisons confiance. Mais je dois être inflexible, et demain je ne lui révélerai rien des événements de cette nuit. Je refuserai d'en dire quoi que ce soit. Je vais rester sur le sofa afin de ne pas la déranger.
1er octobre, plus tard.
Je suppose qu'il est bien naturel que nous ayons dormi très tard. La journée d'hier fut très occupée et la nuit pas du tout reposante. Même Mina doit avoir ressenti cet épuisement. En effet, même si j'ai dormi jusqu'à ce que le soleil soit haut dans le ciel, je me suis éveillé avant elle et j'ai dû l'appeler 2 ou 3 fois avant qu'elle n'ouvre les yeux. À vrai dire, elle était si profondément endormie que pendant quelques secondes, elle ne sembla même pas me reconnaître, mais au contraire, me regarda avec terreur, comme quelqu'un qui aurait été tiré d'un mauvais rêve. Elle se plaignit d'être fatiguée et je la laissai se reposer encore un peu. Nous savons maintenant que 21 caisses ont été enlevées, et si c'est le cas, nous devrions être capables de les suivre à la trace. Bien sûr, cela simplifierait considérablement notre travail, et le plus tôt sera le mieux. J'irai voir Thomas Snelling aujourd'hui.
Journal du docteur Seward. 1er octobre.
Il était presque midi lorsque je fus réveillé par le professeur qui entrait dans ma chambre. Il était plus joyeux qu'à l'ordinaire, et il est évident que les tâches de la nuit dernière l'ont aidé à se débarrasser des soucis qui pesaient sur son esprit. Après m'avoir parlé un peu de l'aventure de la nuit, il me dit soudainement « Votre patient m'intéresse beaucoup. Se pourrait-il que je lui rende visite à nouveau ce matin en votre compagnie ? Ou si vous êtes trop occupé, je peux y aller seul si vous y consentez. » C'est une expérience nouvelle pour moi de rencontrer un aliéné avec qui parler philosophie et au raisonnement si rigoureux. J'avais quelques travaux urgents et je lui répondis donc que s'il pouvait y aller seul, j'en serais heureux et qu'ainsi je n'aurais pas à le faire attendre. J'appelai donc un surveillant et lui donnai les instructions nécessaires. Mais avant que le professeur ne quitte la pièce, je le mis en garde contre les fausses impressions qu'il pourrait se faire sur mon patient. « Mais, répondit-il, je veux l'amener à me parler de lui-même et de son obsession d'absorber des êtres vivants. Il a dit à Madame Mina, comme je l'ai lu dans votre journal d'hier, qu'il avait un temps entretenu cette croyance. Pourquoi souriez-vous, ami John ?»« Excusez-moi, lui dis-je, mais la réponse se trouve ici. » Je posai la main sur les feuillets dactylographiés. Quand notre aliéné, très sain d'esprit et très cultivé, nous déclarait qu'il avait jadis consommé des vies, sa bouche était encore pleine des mouches et des araignées qu'il avait avalées juste avant que Mrs. Harker n'entrât dans la pièce. Van Helsing sourit à son tour. « Bien, dit-il, vous avez une bonne mémoire, ami John, j'aurais dû m'en souvenir. » Et pourtant, c'est justement cette dualité des pensées et de la mémoire qui fait des maladies mentales un si fascinant sujet d'étude. Peut-être puis-je en apprendre plus de la folie de cet homme que je ne le pourrais en écoutant le plus sage des hommes. Qui sait ? Je me mis à mon travail. Il me sembla que fort peu de temps s'était écoulé quand je vis Van Helsing devant mon bureau. « Est-ce que je vous dérange ? » me demanda-t-il poliment. En restant sur le seuil. Pas le moins du monde, répondis-je. Entrez. J'ai terminé mon travail et je suis libre. Je peux venir avec vous maintenant, si vous voulez. C'est inutile, je l'ai vu. Et alors ? Je crois qu'il ne m'apprécie pas beaucoup. Notre entretien fut très court. Quand j'entrai dans la chambre, il était assis sur un tabouret au centre de la pièce, les coudes sur les genoux, une expression de violent mécontentement peinte sur le visage. Je lui parlai aussi aimablement que possible et en lui témoignant force respect. Il ne répondit pas le moins du monde. « Ne me reconnaissez-vous pas ? » lui demandai-je. Sa réponse ne fut pas très rassurante. « Je vous connais très bien, vous êtes ce vieux fou de Van Helsing. Je voudrais que vous disparaissiez, vous et vos théories idiotes sur le cerveau. » « Maudit stupide Hollandais !» Il ne prononça pas un mot de plus et resta assis sur son tabouret dans son attitude sinistre, aussi indifférent à ma présence que si je n'avais pas été dans la pièce. Et ainsi disparut mon espoir d'en apprendre tant de cet aliéné si intelligent. Alors je vais aller me consoler, si c'est possible, en discutant joyeusement avec notre douce Madame Mina. Ami John, vous ne savez à quel point je me réjouis de savoir qu'elle n'aura plus à souffrir ou à s'inquiéter de nos terribles affaires. Même si son aide nous manquera peut-être, c'est bien mieux ainsi. Je suis d'accord avec vous de tout mon cœur, répondis-je très sérieusement, car je ne voulais pas qu'il change d'opinion à ce sujet. Mrs. Harker doit rester en dehors de tout ceci. Ce sera déjà assez difficile pour nous les hommes, qui avons pourtant déjà connu nombre de situations périlleuses. Et ce n'est pas la place d'une femme. Et si elle avait continué à œuvrer à nos côtés, cela aurait infailliblement fini par la blesser. Et ainsi, Van Helsing alla discuter avec Mrs. et Mr. Harker. Quincey et Hart sont sortis sur la piste des caisses de terre. Je termine mon travail et nous devons nous réunir ce soir. Journal de Mina Harker. October.
Il est étrange pour moi d'être laissé ainsi dans l'obscurité, comme je l'ai été aujourd'hui, de voir Jonathan, après avoir joui de son entière confiance pendant tant d'années, éviter délibérément certains sujets, et de surcroît les sujets les plus vitaux. Ce matin, je me suis levé tard, après la fatigue d'hier, et bien que Jonathan se soit réveillé tard également, ce fut lui le plus matinal. Il me parla avant de sortir, avec plus de douceur et de tendresse que jamais, mais il ne mentionna pas un mot de ce qui était arrivé pendant la visite à la demeure du comte. Et pourtant il devait savoir à quel paroxysme de l'angoisse je me trouvais. Pauvre cher compagnon, je suppose que ce silence l'a sans doute perturbé encore plus que moi-même. Ils se sont tous mis d'accord pour déclarer qu'il était préférable que je ne sois pas impliqué plus avant dans cet abominable travail, et j'ai accepté. Mais penser qu'il me cache des choses. Et maintenant voilà que je pleure comme une pauvre idiote, alors que je sais que c'est par amour pour moi que Jonathan et tous ces autres hommes forts agissent ainsi. Cela m'a fait du bien de pleurer. Je me dis qu'un jour Jonathan me racontera tout, et de peur qu'il ne croie un seul instant que je lui cache quelque chose, je continue à tenir mon journal comme d'habitude. Ainsi, s'il a des doutes sur ma foi, je le lui montrerai, et il verra chacune des pensées de mon cœur couchées là, destinées à ses chers yeux. Je me sens bizarrement triste et abattue aujourd'hui. Je pense que c'est le contre-coup de cette terrible excitation d'hier. Hier soir, je suis allée au lit, après le départ des hommes, juste parce qu'ils me l'avaient commandé. Je n'avais pas sommeil, et je me sentais dévorée d'anxiété. Je ne cessais de penser à tout ce qui s'était passé depuis que Jonathan est venu me retrouver à Londres, et tout m'est apparu comme une horrible tragédie, avec le poids d'un destin inexorable nous entraînant vers une fin fatale. Chaque geste accompli, quelque pur qu'il puisse être, paraît nous rapprocher de la chose même dont nous voulons nous éloigner. Si je n'étais pas allée à Whitby, peut-être que la pauvre Lucie serait encore avec nous aujourd'hui. Elle n'avait jamais eu l'idée de visiter le cimetière jusqu'à mon arrivée, et si elle n'y était pas venue pendant la journée avec moi, elle n'y serait jamais retournée pendant son sommeil somnambulique, et ce monstre n'aurait pas pu la détruire comme il l'a fait. Or, pourquoi suis-je donc allée à Whitby? Et voilà que je pleure encore. Je me demande ce qui m'arrive aujourd'hui. Je ne dois pas montrer cette faiblesse à Jonathan, car s'il savait que j'ai pleuré deux fois en l'espace d'une matinée, moi qui ne pleure jamais de mon propre fait, moi à qui il n'a jamais fait verser une seule larme, le pauvre garçon en aurait le cœur brisé. Je me composerai un visage ferme, et si je ne me sens d'humeur chagrine, il n'en verra rien. Je crois qu'il s'agit là d'un art que nous autres femmes devons apprendre à maîtriser. Je ne parviens pas à me souvenir précisément de la manière dont je me suis endormie hier soir. Je me souviens d'avoir entendu l'aboiement soudain des chiens, et de nombreux sons étranges, comme des cantiques furieux, en provenance de la chambre de Mr. Renfield, qui se trouve quelque part au-dessous de la mienne. Et puis, il y eut un silence qui étouffa tous les bruits, un silence si profond qu'il me mit mal à l'aise, et je me levai pour regarder à la fenêtre. Tout était sombre et silencieux, et les ombres noires projetées par la clarté de la lune paraissaient pleines d'un singulier mystère. Pas un brin d'herbe ne remuait. Tout était sinistre et figé, comme par la mort ou par le destin, de sorte que la fine traînée de brume qui se déplaçait lentement, presque imperceptiblement sur le gazon, en direction de la maison, me parut presque animée et dotée d'une conscience. Je crois que ces divagations de mon esprit me firent du bien, car quand je retournai au lit, je me sentis plongée dans une sorte de léthargie. Je restai allongée un moment, mais sans parvenir à trouver vraiment le sommeil. Aussi, je finis par me relever et par retourner à la fenêtre. La brume s'étendait et avait maintenant presque atteint la maison, de sorte que je pouvais la voir s'épaissir contre le mur, comme si elle remontait vers les fenêtres. Le pauvre Renfield criait plus fort que jamais, et bien que je ne pusse distinguer un mot de ce qu'il disait, je pouvais reconnaître à ses intonations qu'il articulait une prière passionnée. Alors me parvint le bruit d'une lutte, et je sus qu'il avait maille à partir avec les gardiens. J'étais si effrayée que je me glissai jusqu'à mon lit et recouvris ma tête de la couverture, me bouchant les oreilles avec mes doigts. Je n'avais alors plus du tout sommeil, du moins c'est ce dont j'étais persuadée. Mais je dus pourtant m'endormir, car en dehors de mes rêves, je ne me souviens de rien jusqu'au matin suivant, lorsque Jonathan m'éveilla. Cela me demanda des efforts, et me prit un peu de temps pour réaliser où j'étais, et pour comprendre que c'était Jonathan qui se penchait vers moi. Mon rêve était très singulier, presque typique de la façon dont les pensées conscientes se fondent et se poursuivent dans les rêves. Je m'étais endormie, dans l'attente du retour de Jonathan. J'éprouvais une vive inquiétude pour lui et me sentais impuissante à agir. Mes pieds et mes mains et mon cerveau étaient comme lestés, de sorte que rien ne fonctionnait au rythme habituel. Ainsi se déroulait mon sommeil agité et mes pensées. Puis, il me semblait peu à peu que l'air devenait lourd, humide et froid. Je retirais les couvertures de mon visage et trouvais, à ma grande surprise, que tout était sombre autour de moi. La lampe à gaz que j'avais laissée allumée pour Jonathan, mais qui s'était éteinte, apparaissait seulement comme une minuscule étincelle rouge à travers le brouillard, qui avait manifestement épaissi et s'était répandu dans la chambre. Ensuite, je me souvenais que j'avais fermé la fenêtre avant d'aller au lit. Je me serais volontiers relevée pour m'en assurer, mais une sorte de léthargie me plombait et semblait enchaîner aussi bien mes membres que ma volonté. Je restais immobile et supportais cet état, et il ne se passait rien. Je fermais les yeux, mais pouvais malgré tout voir à travers mes paupières. C'est incroyable les tours que les rêves peuvent nous jouer et la puissance de notre imagination. Le brouillard devenait de plus en plus épais, et je pouvais voir maintenant par où il entrait, car je distinguais comme une fumée ou une vapeur blanche semblable à celle dégagée par de l'eau bouillante qui se déversait à l'intérieur, non pas par la fenêtre, mais par les interstices de la porte. Il s'épaississait encore et encore, jusqu'à ce qu'il parût se concentrer en une sorte de pilier nébuleux dans la pièce, à travers lequel, en haut, je pouvais voir la lumière du gaz, brillant comme un œil rouge. Les choses commençaient alors à tourbillonner dans mon cerveau, en même temps que la colonne de vapeur qui tourbillonnait dans la chambre, et je voyais une inscription apparaître dans ce maelstrom. Un pilier de vapeur le jour et de feu la nuit. S'agissait-il d'une sorte de guide spirituel qui s'adressait à moi durant mon sommeil? Mais le pilier était composé des deux, vapeur et feu, de jour comme de nuit, car le feu flambait dans cet œil rouge, qui exerçait d'ailleurs sur moi une fascination redoublée, jusqu'à ce que, tandis que je le fixais, le feu se divisa et parut m'illuminer à travers le brouillard comme deux yeux rouges, identiques à ceux dont Lucie m'avait parlé dans sa divagation lorsque nous nous promenions sur la falaise et que les rayons du soleil mourant avaient frappé les vitraux de l'église Sainte-Marie. Soudain, je me rendais compte avec horreur que c'était justement ainsi que Jonathan avait vu ces affreuses femmes se matérialiser à travers une brume tourbillonnante dans le clair de lune. Et dans mon rêve, je m'évanouissais sans doute, car tout, à partir de là, ne fut plus que sombre ténèbres. Le dernier effort conscient de mon imagination fut de me montrer un visage livide surgissant de la brume pour se pencher vers moi. Je demanderais volontiers au docteur Van Helsing ou au docteur Seward de me prescrire quelque chose pour dormir, si je n'avais pas peur de les alarmer. Un tel rêve ne ferait qu'aggraver leurs inquiétudes à mon sujet. Cette nuit, je m'appliquerai à dormir naturellement. Si je n'y arrive pas, je leur demanderai demain soir de me donner une dose de chloral. Une seule prise ne pourra pas me faire de mal, et cela me donnera une bonne nuit de sommeil. La nuit dernière, en effet, m'a encore plus fatiguée qu'une nuit blanche.
2 octobre, 22h.
La nuit dernière, j'ai dormi, mais je n'ai pas rêvé. J'ai dû dormir comme une souche, car je n'ai pas été réveillée par le coucher de Jonathan. Mais ce sommeil ne m'a pas régénérée, et aujourd'hui je me sens terriblement faible et abattue. J'ai passé la journée d'hier à essayer de lire ou à rester allongée, à somnoler. Dans l'après-midi, Mr. Renfield a demandé à me voir. Pauvre homme, il était très gentil, et quand je suis venue, il a baisé ma main et a demandé à Dieu de me bénir. Je ne sais pourquoi cela m'a profondément touchée, et je pleure lorsque j'y repense. Oh, c'est une nouvelle faiblesse dont je dois me méfier. Jonathan souffrirait beaucoup de savoir que j'ai pleuré. Lui et les autres sont sortis jusqu'à l'heure du dîner, et ils sont tous rentrés fatigués. J'ai fait ce que j'ai pu pour leur redonner un peu de courage, et je crois que cet effort m'a fait du bien, à moi aussi, car j'ai oublié ma propre fatigue. Après dîner, ils m'ont envoyé au lit, et se sont tous retirés, prétendument pour fumer, mais je savais qu'ils voulaient simplement se raconter les uns aux autres ce qui leur était arrivé durant la journée. Je pus voir aux manières de Jonathan qu'il avait quelque chose d'important à leur dire. Je n'avais pas sommeil comme cela aurait dû être le cas. Aussi, avant qu'il ne me quitte, j'ai demandé au docteur Seward de me donner un peu d'opiacé, en raison de mes difficultés à dormir la nuit d'avant. Il m'a très obligeamment préparé une potion de somnifère, en me disant que cela ne me ferait pas de mal, car il était très peu dosé. Je l'ai pris, et j'attends le sommeil, qui pour le moment ne vient pas. J'espère que ce n'était pas une erreur, car alors même que le sommeil commence à poindre, je suis saisie d'une peur nouvelle. J'ai peut-être été folle de me priver du pouvoir de me réveiller. Je pourrais avoir besoin de toutes mes facultés. Voici le sommeil qui vient. Bonne nuit.